Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue, ou plutôt devrais-je dire bon retour sur le Rendez-vous Tech. On s'est arrêté pendant au moins un mois si ce n'est plus, mais nous sommes de retour. Je vous en dirai peut-être un petit peu plus sur les raisons de l'arrêt. Je pense que vous savez si vous m'avez suivi sur Twitter. J'ai pris des vacances pour la première fois depuis, je sais pas, 7 ans que je fais du podcast. On pourra en parler à la fin de l'émission, comme ça on n'ennuie pas ceux que ça n'intéresse pas et ceux qui veulent plonger directement dans toutes les news tech de la semaine. Et on va revoir un tout petit peu ce qui s'est passé au niveau de Prism pendant l'été, un petit peu rapidement parce que ça commence à devenir pas toujours la même chose, mais ça devient on l'a beaucoup couvert. Donc on reviendra quand même dessus parce que je pense que c'est un sujet important. Et on aura pour nous accompagner pendant toute l'émission Un fidèle du Rendez-vous Tech et qui est aussi un commentateur tech tout à fait admirable, à savoir Benoît, qui est l'animateur, enfin l'un des animateurs que vous connaissez de NipTech. Comment vas-tu, Benoît, monsieur?
Salut.
Qui représente la Suisse dans le podcast tech francophone, n'est-ce pas?
Oui, absolument. Alors, merci pour la présentation. On entend que tu es détendu, la voix bronzée, que tu as le calme comme ça après les vacances. Donc, je me réjouis vraiment d'entendre ce que ça t'a inspiré, cette pause.
Oui, on parle d'inspiration forcément avec Benoît, rapport à NipTech. Mais j'aime beaucoup ton expression, la voix bronzée. Je trouve ça très poétique. J'apprécie.
Oui, c'est vrai.
Donc NipTech, eux, n'ont pas pris de vacances, ils étaient là tout l'été. Donc tu vas pouvoir me dire et me donner tous les détails sur les gros sujets de ces dernières semaines. Enfin, principalement, on vous le cache pas, il s'est passé tellement de choses la semaine dernière et cette semaine que on va principalement parler de ça quand même, à savoir Microsoft, Steve Ballmer et Nokia. En gros. Donc, les deux premiers sujets, on se lance immédiatement dans le vif du sujet. Il n'y a pas de raison de se priver quand c'est bon, quand la tech est croustillante comme ça. On ne va pas faire attendre les auditeurs. Donc, dans le vif du sujet, la semaine dernière, premier coup de tonnerre, Steve Ballmer, qui est le président de Microsoft depuis le départ de Bill Gates et qui est chez Microsoft depuis quasiment le début de Microsoft. Donc Steve Ballmer annonce son départ de la société. Alors le départ ne prend pas effet immédiatement, il annonce le départ dans les 12 mois. Il n'y a pas de date précise, mais il commence le processus de recherche d'un nouveau président pour Microsoft. Deuxième coup de tonnerre, sur lequel on va revenir un peu plus tard quand même, cette semaine, Microsoft rachète Nokia. Alors, a priori, les deux événements sont pas forcément liés. On peut y voir des liens si on cherche un petit peu. Il n'est pas certain que ça soit tout à fait confirmé à l'avenir. Mais commençons un petit peu avec cette retraite de Steve Ballmer, qui est pas super vieux, il a quoi, une cinquantaine d'années, presque la soixantaine, donc il n'était pas du tout obligé de partir. Certains disent qu'il a été un petit peu poussé vers la sortie. Si vous avez écouté le Rendez-vous Tech régulièrement, vous vous souviendrez que le
conseil d'administration.
Voilà, merci. Un vrai entrepreneur pour me reprendre.
Tu fais plaisir parce que nous, on n'arrive jamais non plus à trouver les mots en français. Donc,
ça nous arrive ici aussi, on se fait engueuler à chaque fois. Donc, le conseil d'administration, selon certaines rumeurs plutôt persistantes, réclamait le départ de Steve Ballmer pour une raison essentielle qui était la stagnation éternelle du prix de l'action. Selon beaucoup de gens, le Steve Ballmer n'a pas réussi à capitaliser sur les opportunités tech de ces 10-15 dernières années, on va dire de ces 10 dernières années, et même si Microsoft se porte pas trop mal, aurait dû laisser sa place à quelqu'un peut-être de plus jeune, de plus dynamique, voilà. Sans rentrer plus dans les détails, ce qu'on fera ensuite, Benoît, toi, ça t'a inspiré quoi, cette annonce du départ de Steve Ballmer? Surpris, heureux, qu'est-ce qu'on a pensé?
Ouais,
Moi, je le sais parce que j'ai écouté Niptech, hein, mais pour les auditeurs.
Oui. Alors, je me situe plutôt dans les gens heureux. Je pense que c'est le moment pour Steve Ballmer de faire place à quelqu'un d'autre. Ce qu'il y a de très étrange, et tu l'as bien souligné, c'est que c'est en général assez rare pour des sociétés comme ça d'annoncer le départ du CEO un an à l'avance. Donc, il a dû se passer quelque chose. En règle générale, pour assurer la stabilité, etc., soit on a un dauphin qu'on montre plus ou moins à la Tim Cook, hein, qui était un petit peu prévu, etc. Enfin, il avait fait l'intérim et des choses pareilles. Soit alors on fait une transition directe, mais on a déjà quelqu'un. Le fait qu'ils disent être en train de chercher encore, c'est très, très étrange. Et le problème qu'il y a, c'est que ça crée un vide au niveau du pouvoir et ça rend la boîte ingérable, de ce que j'entends, hein. C'est extrêmement difficile. Donc, j'ai un peu un point d'interrogation sur le timing. Et je me demande s'il n'y a pas eu quelque chose en interne qui a déclenché tout ça. Après, je suis d'accord avec toi, hein, l'action Microsoft, c'est encore plus stable que les bons du Trésor américain. Je veux dire, ça bouge pas une oreille. Sincèrement, Steve Ballmer, c'est quelqu'un d'intelligent. Il faut pas non plus, partir dans
C'est vrai qu'avec
clichés,
avec ces vidéos très connues de Steve Ballmer qui fait un peu le singe sur scène en hurlant "Developers, developers, developers", il a une image clairement négative.
C'est un beauf. Il faut dire ce que c'est. C'est un gros beauf. Mais ça en fait pas une mauvaise personne. Et c'est là où faut être capable de différencier. On peut être CEO d'une énorme société et
être un beauf.
Et voilà, accompli. Ouais. Donc, le problème qu'il y a avec ça, de nouveau, c'est dans un marché qui va aussi vite que ça, c'est pas quelqu'un qui a le sens du produit. Et il a été extraordinaire pour gérer Windows et Office, qui était plutôt un problème de vente pur. Et c'est vrai que le reste, c'était difficile. C'est un départ. Franchement, moi, je me réjouis de voir qu'est-ce que fera Microsoft l'année prochaine.
Ben, moi, je prends un petit peu le contre-pied, un petit peu pour le principe et aussi parce que je le pense. Encore une fois, les auditeurs fidèles de l'émission s'en souviendront. J'ai souvent tendance à défendre Steve Ballmer parce que c'est vrai que c'est pas la personne qui a forcément le plus... Enfin, disons que Microsoft n'a pas énormément innové ou en tout cas n'a pas eu énormément de réussite innovante sous Steve Ballmer. Mais d'une part, il faut quand même avouer que Microsoft a complètement maintenu sa dominance sur le marché de l'informatique personnelle et des ordinateurs, hein, au sens traditionnel du terme, pas des tablettes ou des smartphones évidemment, mais a maintenu sa dominance sur ce marché, alors que c'était pas forcément évident. Je veux dire, il y a énormément de sociétés qui avaient des situations très établies sur des marchés tech, qui sont fait complètement blackbouler, et en disant blackboulant, je pense évidemment à BlackBerry, mais il y en a d'autres, hein, il y en a pas mal. Il y a pas si longtemps que ça, IBM avait jeté l'éponge sur le marché de l'informatique personnelle, etc., etc. Et aujourd'hui, certes, Microsoft n'a pas réinventer la roue, mais ils ont gardé cette situation qui n'était pas forcément facile à garder. Alors oui, on parle peut-être un petit peu plus de stratégie commerciale que d'innovation technique, c'est certain, mais de ce point de vue, je pense qu'il aurait été possible aussi pour quelqu'un d'autre, peut-être de faire mieux, mais il n'aurait pas été très difficile de faire moins bien non plus. Il y a un vrai piège là, à mon avis.
Le problème de Steve Ballmer, je crois que tu le dis bien. Bon, alors on sait que le marché du PC est en déclin. On parle quoi, 5 à 10% en gros cette année.
Ouais.
Déjà, ça fait un petit peu mal. Mais le problème de Steve Ballmer, de ce que j'entendais aussi des gens qui travaillent sur Microsoft, c'est que il a quand même réussi à diviser Microsoft. C'est devenu, je sais pas si tu as vu ce petit dessin qui montre comment les différentes sociétés sont organisées. Et sud Microsoft, en fait, c'est une série de gens qui ont des pistolets pointés les uns vers les autres.
Oui, j'avais vu ça, oui.
Et je veux dire, c'est vraiment l'image que même les gens en interne ont, et c'est ça mon reproche principal à Steve Ballmer. De pas réussir à innover, c'est vrai que c'est très ennuyeux pour eux, mais en même temps, c'est vrai que c'est pas facile non plus.
C'est facile à dire,
t'as raison de le souligner. Ouais.
Mais pour finir sur la question de l'innovation, je voulais aussi dire que il y a quand même des choses intéressantes qui ont été faites sous Steve Ballmer chez Microsoft. La table Surface n'a pas été peut-être pas la technologie n'a pas été gérée ou implémentée comme il l'aurait fallu, mais c'était quand même quelque chose d'intéressant. Le Zoom, qui était un lecteur de MP3 qui n'a pas fait énormément long feu non plus, était pas mal du tout. On ne peut pas oublier évidemment la Xbox, qui est un énorme succès, peut-être le succès sur un marché différent qu'on a eu sous Steve Ballmer, avec la Kinect évidemment qui joue une grande part dans la prochaine Xbox. Windows Phone 8 Windows Phone 7 et 8 qui a quand même un succès d'estime, on va dire, si ce n'est pas un succès commercial, et on y reviendra avec Nokia. Mais donc il y a quand même eu, ça a pas non plus été du surplace total. Maintenant, comme tu le fais remarquer très justement, l'organisation et surtout la manière de régner entre guillemets de Steve Ballmer, c'était la division, et il voulait pendant, en tout cas des années, c'est ce qu'on entendait, c'est qu'il il s'assurait qu'il n'y avait personne pour prendre sa place, de manière à ce que lui-même puisse rester en place. On a vu deux dauphins faire défection, Ray Ozzie d'une part, qui était l'un des grands innovateurs au niveau du software chez Microsoft, et Steven Sinofsky ensuite, qui a créé Windows 8. Alors certains diront peut-être c'est bon débarras parce qu'il n'aime pas Windows 8. Moi, je l'aime beaucoup, Windows 8, donc je suis un petit peu déçu. Puis en tout cas, c'était quelqu'un avec une vision différente. Et puis, il y a aussi cette histoire, quand on parle de la gestion de personnel, du stack ranking, qui a fait beaucoup de bruit chez Microsoft. Tu sais ce que c'est, le stack ranking?
Ouais, absolument. J'étais moyennement surpris, hein, parce que bon, pour le dire, je pense qu'on l'a déjà dit ici, mais j'ai travaillé chez Google pendant 2-3 ans. C'est aussi quelque chose qui existait, et donc le stack ranking, c'est l'idée de classer ses collègues, en gros, hein, donc de dire cette personne-là, je le mets en premier, cette personne-là, je le mets en dernier, et on n'a pas le choix en fait. On doit mettre de 1 à X.
Oui, pour schématiser, c'est-à-dire que si on a une équipe de 10 personnes, il faut classer les gens de 1 à 10. Et généralement, la manière dont c'est implémenté, c'est que la personne qui est dixième, eh ben, elle se fait virer. Alors, tu peux faire du stack ranking tous les trimestres, qui est vraiment violent, tous les 6 mois, tous les ans. Et c'est souvent une méthode qu'utilisent les nouveaux CEO qui arrivent dans une société qui a un petit peu trop de volume. C'est un moyen de délaguer assez efficacement et assez rapidement. Alors, c'est une méthode qui pourrait paraître un petit peu cruelle, mais il y a des sociétés qui grossissent et qui à un moment ont besoin de ça quand elles vont plus très bien du tout. Mais évidemment, là où ça peut être horriblement dommageable pour la société et pour le moral et pour même la productivité, parce que les gens se mettent à ne plus essayer de faire des choses différentes pour surtout pas se planter, c'est quand c'est fait en permanence. Et il semblerait que chez Microsoft, le stack ranking soit de rigueur depuis longtemps, et pas juste pour renouveler un petit peu, c'est pas l'élagage, quoi, d'été qu'on fait une fois tous les 5 ans. Là, c'était en permanence.
Donc, oui, mais il faut le voir, hein, du dehors, ça peut sembler choquant. Ben, des gens que je connais chez Microsoft, en gros, vraiment, si on est tout le temps 9e, 10e, ce qui va se passer, c'est qu'ils mettent un plan. C'est vraiment à l'américaine, hein. On a l'impression que les Américains, ils virent du jour au lendemain. En fait, ils prennent beaucoup de précautions parce qu'ils ont peur des procès, voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un plan d'action sur 3 mois, sur 6 mois, on doit s'améliorer, atteindre des objectifs, et puis ensuite, vraiment, si on les atteint pas, on est viré. Donc, c'est pas si barbare que ça non plus. Après, c'est vrai qu'il y a un effet, hein, sur le moral, c'est quand même, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a une compétition et que gloire au premier, et que par contre, c'est clair que on n'a plus aucune chance d'avancement ou d'augmentation une fois qu'on est un petit peu dans le ventre mou ou à la fin.
Ouais, d'accord. Bon, donc voilà le départ de Microsoft. C'était une grosse surprise parce, comme on le disait, il régnait par la peur et on avait l'impression qu'il était là pour toujours. Et puis en même temps, là encore, comme tu le rappelais, Benoît, c'est peut-être le bon moment pour lui de partir. D'ailleurs, il a dit dans sa lettre de départ, Microsoft doit devenir une société de device et de services. Et j'aurais voulu rester pour un petit peu plus longtemps dans cette transition, mais il faut que le nouveau CEO arrive maintenant pour être là à peu près au début encore et qu'il puisse faire évoluer les choses sur la longueur et qu'il soit là tout du long. Donc c'était un petit peu l'idée l'idée, on ne sait pas, mais en tout cas l'une des justifications qu'il a données. On en saura peut-être le fin mot un jour. En tout cas, lui, il n'est pas forcément mécontent parce que il a réussi à mettre de côté, à augmenter son patrimoine de 750 millions de dollars suite à la hausse de 7% qu'a subi l'action de Microsoft quand il a annoncé son départ. Et il a quand même... Il a quand même 270 milliards de, quelques millions de bonus et de sommes de départ. Quand je dis quelques millions, c'est quelques dizaines de millions, voire plus. Donc, ça va. On n'est pas non plus trop triste pour Steve Ballmer.
Non, c'est ça. J'ai séché mes larmes aussi quand j'ai
pensé assez rapidement, oui. Et donc, la news suivante qui s'emboîte un petit peu dans cette première annonce, c'est le rachat de Nokia par Microsoft. Alors là encore, c'était pas non plus quelque chose qui était incroyablement surprenant, parce que Nokia et Microsoft fricotent ensemble depuis un moment. Mais c'était pas non plus quelque chose qu'on attendait sans rumeur, sans rien, parce que ce genre de deal, ça prend un moment à se mettre en place. Et alors avant tout, je pense qu'il faut être assez clair sur ce qu'ils ont racheté. C'est-à-dire que Microsoft a racheté la partie device, la partie téléphone mobile de Nokia. Mais Nokia garde d'une part le nom Nokia, ils gardent leur infrastructure, leur département infrastructure et réseau. Entre parenthèses, ils avaient racheté leur partie de Nokia Siemens il y a quelques mois de ça, donc ça veut dire qu'ils étaient déjà en train d'y penser et qu'ils se sont consolidés sur ce domaine. Et Nokia ne vend pas son nom. C'est-à-dire que ils vendent une licence à Microsoft sur 10 ans pour acheter pour utiliser le nom Lumia, voire même Nokia, si je ne me trompe. Mais Nokia garde le nom, donc la société Nokia elle-même continue à exister. Et on imagine que Microsoft va commencer à faire des téléphones et même des tablettes Nokia, voire Microsoft Lumia. Et à terme, ils vont transitionner le nom Nokia en dehors des devices. Et pour 2 ans, Nokia a l'interdiction de faire des téléphones, tout type de téléphones, et dans 2 ans, ils pourront faire des téléphones qui ne sont pas des smartphones. Et à terme, ils pourront faire même des smartphones. Donc, on risque de retrouver des téléphones Nokia plus tard. Mais bon, ça c'est pour les précisions sur le deal. Quelle est ta première pensée quand tu entends que Microsoft a racheté Nokia, Benoît?
Ouais, bon, déjà, faut pas oublier que Nokia, c'est une société qui a beaucoup d'autres produits, hein, à l'époque. Mais alors, je vous parle de ça, il y a longtemps, hein. J'avais une télévision Nokia. et donc, ils ont vraiment, ils ont fait des pneus, ils ont fait un peu tout Nokia, hein. Donc,
ils reviennent. Tous les enfants finlandais ont leurs bottes en caoutchouc Nokia, hein.
Voilà. Donc, ils ont, ça, des fois, on l'a oublié un petit peu quand on est dans la tech et tout ça. Mais donc, ils reviennent un petit peu aux sources, ce qui est plutôt bien. Et puis, on peut pas s'empêcher quand même de penser, quand on voit Nokia et quand on voit Steven Hillop, qui est le CEO de Nokia, qui arrive et qui est quand même le gars qu'on pense être le successeur
qui est un ancien de Microsoft.
Steve Ballmer. Voilà.
Qui est un ancien. En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est un ancien de Microsoft et il est président de Nokia, d'où le rapprochement avec Microsoft. Et maintenant, il revient chez Microsoft en tant que président de la division, en gros, de la division de Nokia qu'ils ont achetée. C'est
alors l'œuf ou la poule
disais.
Est-ce qu'il a été là-bas pour préparer ça ou est-ce qu'il a préparé ça parce que ayant des bonnes relations, ils ont réussi à aller de l'avant? Dur à dire, hein. Il y a quand même pas
sûr.
Mal de gens qui disent qu'il a été là-bas, qu'il a fait le maximum pour que Nokia soit dans une position d'être racheté, pas forcément donc pour le bien de la société, et qu'ensuite il a ramené ça dans le giron Microsoft. J'ai un peu de peine à y croire parce que je crois pas que des gens comme ça aille dans une société avec cette volonté de nuire. Mais c'est vrai que, c'était le truc que tout le monde voyait quand même venir. Moi, ouais. Je trouve que c'est bien. Comme Google a peut-être pas racheté le meilleur, hein, j'aurais préféré que Google rachète Nokia, par exemple, ou même BlackBerry.
plutôt que Motorola, ouais.
Mais bon, eux font la même chose. Donc, on est vraiment dans une logique de où tout le monde veut ressembler à Apple. Donc, c'est plutôt bien. Moi, je me réjouis qu'ils aient la main mise sur l'infrastructure Nokia. Et ça va donner, à mon avis, des téléphones intéressants.
Ben, comme tu dis, tout le monde veut faire comme Apple. Effectivement, ce que ça veut dire, c'est que les gros développeurs d'OS mobile maintenant ont tous un bras armé matériel. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une intégration peut-être plus grande, qui a été un petit peu timide chez Google, mais qui commence à arriver avec Motorola. Mais une intégration plus grande entre le logiciel et le matériel, qui est, selon citation très célèbre de Steve Jobs, qu'il avait reprise à quelqu'un d'autre, si je ne m'abuse. Les gens qui sont sérieux, qui veulent faire leur logiciel sérieusement, font aussi leur matériel. Et ce qu'a fait Microsoft pendant des années a démenti cet adage avec Windows. Est-ce que là, ça va devenir le cas dans ce nouveau monde technologique qui est la mobilité, ou est-ce que Google et Microsoft sont en train de se fourrer le doigt dans l'œil en essayant de singer un petit peu Apple et vont faire plutôt ce que fait BlackBerry, c'est-à-dire que BlackBerry, il faut pas l'oublier, ils avaient cette intégration, enfin ils l'ont toujours. Hein.
Ouais. Oui, non, mais tu as raison de le dire au passé. Ouais.
Mais oui, c'est ça, ils ont cette intégration, mais ça leur a pas vraiment permis de résister à l'assaut de l'industrie qui change. Donc, est-ce que Microsoft plus Nokia peut vraiment réussir? Est-ce que Google plus Motorola, qui sont quand même en position beaucoup plus confortable, c'est vraiment une bonne chose? Je sais pas. Il y a pas de raison, hein. C'est pas des idiots, mais c'est compliqué. Avec Windows Phone qui n'a pas réussi à tenir les promesses de vente, en tout cas, qu'on espérait. Mais ils ont quand même le soutien de Microsoft, qui est un mastodonte, et de Windows sur PC, qui reste un gros atout. Bon, je sais pas. L'avenir nous le dira, j'imagine.
Ouais.
D'ailleurs, non, à ce propos, oui, vas-y Benoît. Vas-y.
Non,
interromps-moi quand je parle trop, hein. Faut pas hésiter.
Ah, faut y aller franchement. Non, ouais. Mais c'est vrai que c'est vraiment. Moi, je trouve que c'est quand même deux sociétés qui vont bien ensemble, assez d'un côté assez conservatrice, hein, et on parle ça dans le monde de la tech, donc ça veut quand même pas dire que voilà. Mais et avec des beaux portfolios de brevets, je pense une vision similaire. Non, je pense que c'est plutôt bien. Par contre, c'est vrai que ce que tu disais, tu vois, tout le monde s'est réjoui à l'annonce du départ de Ballmer, et tous les gains enregistrés, bah, ils se sont envolés aussi vite à l'annonce de cette fusion. Je veux dire, c'est quand même qu'il y a des gros doutes chez les analystes au niveau de la viabilité. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partagent tes doutes. Dans le même temps, les gens semblent croire de nouveau en Nokia. Donc, c'est quand même, je trouve ça assez paradoxal quand même.
Mmh. Oui, l'action Nokia s'est envolée 47% de plus. C'est phénoménal, oui. Alors qu'ils se débarrassent de la chose pour laquelle ils sont les plus connus. Tu parlais des brevets. Il y a quelque chose d'assez intéressant au niveau des brevets. C'est que Microsoft n'a pas racheté les brevets. Il reste au nom de Nokia. Et on pourrait se dire que c'est une perte pour Microsoft de ne pas avoir racheté les brevets, parce qu'on le sait, les brevets, c'est un petit peu le nerf de la guerre dans la tech aujourd'hui. Et en fait, c'est peut-être pas si bête que ça de la part de Microsoft. Bon, d'une part, Nokia voulait sans doute pas s'en départir parce que c'est une arme. D'autre part, Microsoft a acheté une licence ou a eu une licence dans cet énorme deal pour utiliser les brevets Nokia pour 10 ans. Et encore d'autre part, ça veut dire que Nokia a maintenant les mains totalement libres pour utiliser ses brevets contre les autres fabricants de téléphones mobiles. Pour diverses raisons, il l'avait pas fait jusqu'à maintenant, entre autres parce qu'il travaillait avec Microsoft, mais il l'avait pas fait jusqu'à maintenant. Et ça veut dire que maintenant, si Nokia commence à demander de l'argent aux utilisateurs d'Android pour les brevets, enfin aux constructeurs qui font des téléphones sous Android pour les brevets qu'ils utilisent, d'une part, Microsoft le fait déjà et beaucoup de constructeurs Android payent de l'argent à Microsoft pour chaque téléphone qu'ils vendent. On le sait pas forcément.
Des centaines
assez.
De millions par année. Hein. Je crois qu'ils étaient à 500 millions. Enfin, et ça, c'est des vieux chiffres, donc probablement plus maintenant.
Je connais pas les chiffres, mais effectivement, c'est une manne énorme. Et alors, si en plus Nokia, qui a des brevets essentiels pour la téléphonie mobile, comme on disait, ils étaient vraiment importants dans ce domaine il y a encore quelques années, s'ils commencent eux aussi à faire valoir leurs brevets de cette manière, peut-être même que certains constructeurs qui n'ont pas forcément réussi autant qu'ils l'espéraient avec Android vont se dire bon, ça commence à être plus si intéressant que ça. Android, c'est le système gratuit, mais en fait, on doit payer à Microsoft et à Nokia et à machin et à truc. Et en plus, il y a que Samsung et Google qui réussissent dans cette affaire. Bon, on va peut-être se calmer et peut-être que ça pourrait ouvrir une petite porte pour Windows Phone qui, entre parenthèses, continuera à être vendu aux autres constructeurs. Microsoft n'a pas l'intention de ne plus utiliser Windows Phone que dans ses propres téléphones. Ouais. Alors, à savoir aussi si les autres constructeurs seront intéressés par des Windows Phone, parce que, comme pour Google avec Motorola, le fait de prendre un OS qui, en plus, on doit payer, parce qu'on doit le payer à Microsoft Windows Phone, contrairement à Android. Donc, cet OS qu'on doit payer, qui est en concurrence avec un appareil qui est construit par la société à laquelle on paye la licence de l'OS, ça aussi, ça peut refroidir les gens. Donc, bon, alors que Android, d'un autre côté, oui, il y a ces divers problèmes, mais c'est quand même un OS installé. Alors que Windows Phone, c'est un petit peu le cheval noir, on dit en anglais.
Le mouton noir, j'imagine.
Le mouton noir, peut-être.
Bon, ce qu'il faut voir, c'est que ce problème de brevet, c'est un problème pour les appareils bas de gamme. Quand tu payes 600 euros pour un appareil, que tu ailles 10 euros de plus pour des brevets, hein, on tourne dans ces eaux-là. Je veux dire, c'est pas 100 euros par appareil. On va dire 5 à 15 euros par appareil. Par contre, quand tu as un téléphone à 100 euros ou à 80 euros, à payer 15 euros de plus, là, ça devient un problème tout de suite. Donc, effectivement, il y a des stratégies qui vont être pour les marchés émergents, etc., qui vont être assez différentes. Ça va être intéressant aussi. Et je pense clairement que Nokia et Microsoft se sont dit, on est plus fort à deux pour étouffer Android qu'à un. Parce que les juges ne vont pas avoir d'un bon œil forcément que Microsoft vienne tout le temps avec des brevets, etc. C'est difficile à gérer. Nokia a de l'expérience là-dedans. Ils vont pouvoir se partager un petit peu les bénéfices aussi. Donc, je pense qu'il y a aussi une bonne vision. Pour les gens qui sont intéressés, qui lisent l'anglais, il y a un blog célèbre qu'on a peut-être cité, je crois que tu as déjà cité, mais qui s'appelle False Patents, d'un gars qui déteste Google. ça vaut la peine d'aller lire parce que c'est intéressant de voir le point de vue sur les brevets de quelqu'un qui est pour la stratégie de Microsoft et donc de Nokia et contre la stratégie de Google. La presse est plutôt dans le sens opposé hein, d'habitude.
Pour finir, je voudrais faire un petit point sur les réactions de la Finlande qu'on a évoqué un tout petit peu il y a quelques minutes. Comme vous
peut-être
le savez,
que tu connais bien.
Ben voilà, j'ai une envoyée spéciale, une correspondante finlandaise à Paris, Madame Beja, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui l'ignorent encore, et on en parlera encore, comme je le disais à la fin de l'émission, peut-être. Et donc, elle m'a parlé un petit peu des réactions en Finlande. Je pense que c'est assez intéressant parce que on y voit peut-être quelque chose de qui nous intéressera par rapport à ce qui pourrait se passer en France, ce qui s'était presque passé avec Dailymotion et le rachat de Dailymotion par Yahoo qui ne s'est pas fait, etc. Et les discussions que ça a entraîné. En Finlande, les réactions étaient assez intéressante, je trouve. Évidemment, il y avait beaucoup de gens qui disaient que c'était une perte pour le pays. Hein. Le pays est assez petit, c'est 5 millions d'habitants. Et il faut savoir que Nokia était une force colossale. On peut penser à Peugeot ou Renault après-guerre. C'était l'industriel qui a sorti le pays de l'ère... enfin, je dis soviétique, évidemment, la Finlande n'était pas soviétique, mais il y avait une telle influence de l'Union soviétique et ils vivaient presque comme un pays de l'Est. Donc, après ça, et dans les années 90, Nokia a été tellement énorme qu'il a sorti le pays, il a enrichi le pays jusqu'à l'amener au niveau d'un des pays les plus riches du monde qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, les gens étaient, bien sûr, et c'est compréhensible, très émus et très affectés par cette vente.
Mais ils sont comme ça, les Finlandais. Moi, j'ai cru que Kimi Räikkönen, c'était genre un joyeux luron pour un Finlandais. C'est quelqu'un qu'on ne voit jamais sourire.
bien sûr. Mais je veux dire, les réactions dans la presse, en tout cas.
D'accord.
Et donc la réaction était, les réactions étaient forcément un petit peu déçues, mais il y a aussi eu pas mal de réactions intéressantes. Certains disaient au moins on garde le nom. Et Nokia, c'est une société qui s'est réinventée à de nombreuses reprises. C'est une société qui est assez ancienne, hein, qui a, si je ne m'abuse, commencé au début du siècle dernier, qui a fait énormément de choses, comme tu le disais, ça va des bottes en caoutchouc aux pneus, en passant par les télés et bien sûr les smartphones. Donc, les gens qui étaient à la tête de Nokia ont su toujours réinventer la société, parier sur l'avenir et revenir sur le devant de la scène dans des domaines où on ne les attendait pas. Alors peut-être que Nokia, avec ses histoires d'infrastructures et de réseaux, vont revenir et peut-être qu'ils auront une autre entrée sur d'autres choses plus tard. Ils ont aussi dit, évidemment, il y a beaucoup d'ingénieurs qui vont perdre leur travail. Donc c'est très triste pour eux, évidemment. Mais ce que ça veut dire aussi pour la société finlandaise, c'est qu'il y aura énormément d'ingénieurs avec une connaissance technique très aiguë qui vont se retrouver sans travail et qui donc vont se mettre à créer des start-up. Alors, on connaît quelques start-up en Finlande, notamment pour les apps iOS. Il y a Angry Birds qui est très connu, mais il y en a d'autres. C'est un marché qui est relativement dynamique, un pays qui est relativement dynamique pour ce genre d'entreprise. Et là, ça va amener du sang neuf dans ce domaine. Donc, certains s'en réjouissaient. D'autres encore disaient que la chute de Nokia dans ce domaine était inévitable. Ce qu'ils ont fait avec Windows Phone n'a pas vraiment marché. Et donc il valait mieux s'en débarrasser avec Microsoft pour couper la branche qui était en train de mourir et recommencer de plus belle d'une autre manière, avec une quantité de cash assez phénoménale, surtout pour un pays comme ça, qui est relativement petit, pour pouvoir vraiment réinvestir et repartir sur des bonnes bases. Les réactions sur Stephen Elop ont été nombreuses, hein, tu l'as déjà évoqué. Et y a d'autres personnes encore, et je conclurai là-dessus, qui disaient que de toute façon, c'est une partie de ces métiers-là, parce qu'ils avaient encore des téléphones qui étaient fabriqués en Finlande, une partie de ces métiers-là aurait été délocalisée de toute façon. Et donc, encore une fois, il valait mieux le faire maintenant bien et avoir de l'argent pour, plutôt que d'attendre jusqu'à la fin des temps et finir par tout perdre.
Ouais. Donc, il y a quand même un petit... Bon, pour ceux que ça intéresse au passage, hein, les start-up finlandaises et de la région-là, hein, l'Estonie aussi est hyper active dans ce domaine. Vous pouvez aller voir arcticstartup.com. Désolé, c'est nouveau en anglais, mais ils font un petit peu le topo et donc vous pourrez suivre les aventures effectivement des anciens de Nokia. Il y en a déjà pas mal, hein, qui étaient passés par là. Nokia depuis pas mal de temps aussi des incubateurs dans toute la région nordique. Donc ils sont très bien intégrés, ils ont un excellent réseau local. Je veux dire, c'est aussi ce qui est arrivé à Ericsson. Où est-ce qu'on a fait faux en Europe? On a vraiment merdé, je veux dire, on a été tout bien il y a 10 ans quand c'était des petits appareils moches et pas très efficaces. Et maintenant plus, quoi. Donc moi là, j'ai quand même un petit peu d'amertume, ouais, par rapport à ça.
Je te comprends. Bon, on va refermer cette page Nokia Microsoft et vous parler un petit peu de Prism. Là, on va plus faire un inventaire de tout ce qui s'est passé pendant l'été. Comme je le disais, certains d'entre vous en ont peut-être un petit peu soupé de Prism, mais on va quand même en parler encore un petit peu parce que c'est quelque chose d'assez important. Et puis, on se rend compte que les choses continuent à évoluer. Donc, d'abord, la Russie a accordé un asile temporaire à Snowden, le lanceur d'alerte. C'est un asile d'un an seulement. Beaucoup de gens se sont exclamés que c'était une honte pour la France qu'on ne l'ait pas fait. Je pense que c'est un petit peu... Oui, ça aurait été bien qu'on le fasse, mais c'est un petit peu irréaliste quand même. Les relations internationales sont faites de manière un petit peu différente. En tout cas...
oui, et puis il y a des règles de droit, hein, je veux dire. Non, c'est normal que la France ne se fasse pas. C'est joli pour la photo, mais enfin, voilà.
C'est sûr. Et puis, bon, la Russie, évidemment, Poutine ne l'a pas fait juste pour faire plaisir à Snowden non plus. Hein. C'était une position, ouais, un jeu d'échecs contre les États-Unis aussi. La NSA a annoncé au cours de l'été quelque chose qui a bien fait rire l'ensemble des gens qui connaissent un petit peu le net. Ils ont dit « ne vous inquiétez pas, nous ne touchons, entre guillemets, hein, c'est le terme qu'ils ont utilisé, nous ne touchons que 1,6% du trafic global d'Internet par jour ». Alors, il parle vraiment de quantité de données, hein, de gigabits et de pétabits. 1,6%, il voulait dire qu'en fait... c'est pas tellement. Mais quand on étudie un tout petit peu les choses avec deux grammes de bon sens, on se rend compte que 1,6%, c'est un chiffre absolument monumental. Parce que, évidemment, je vais vous donner un exemple des raisons pour lesquelles c'est énorme. L'essentiel du trafic du net est de la vidéo. YouTube, Netflix, ce genre de choses. Et évidemment, la vidéo n'est pas ce qui intéresse la NSA. Ce qui les intéresse, c'est essentiellement du texte, parfois peut-être quelques images, mais c'est surtout du texte qu'ils vont prendre. Et le texte ne prend rien en volume. Donc déjà, si on enlève, c'est, on va dire, 40% de vidéos, ça double presque ce pourcentage. Les calculs continuent à se faire comme ça. Pour en venir au bout du compte, c'était... bon, il y a des gens qui ont fait des calculs. Je vais Jeff, Buzz Machine, le journaliste très connu.
Ah non, alors là, tu me poses une colle.
Bah, je suis complètement névrosé. Il faut que je le Jeff Jarvis, merci.
Ah oui, ah bah, pardon.
Bah oui, quand même. Je remercie Google, entre parenthèses. C'est à lui que je dis merci. Donc Jeff Jarvis a calculé. Au final, ça correspond à peu près 20% du trafic internet. Américain. Donc 20% de toutes les données échangées en provenance ou en partance des États-Unis en texte sont touchées, et là on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, sont touchées par la NSA. Mais c'est énorme, c'est monumental.
Et puis ça veut dire quoi? Attends, alors moi je propose que tous les Américains payent 1,6% d'impôts en moins, parce que c'est rien 1,6%, on s'en fout, ils l'ont dit, c'est officiel, alors on s'en fout.
C'est vrai, c'est vrai.
Et puis c'est la même chose, de dire ouais, j'ai volé 1 million à une banque, donc c'est pas grave, c'est complètement idiot comme défense, c'est vraiment... ouais.
C'était vraiment
rien
pas
à garder là-dedans.
D'ailleurs, ils n'ont pas insisté très longtemps. Obama a donné une réponse à la question de la surveillance illégale de la NSA. Les gens sont d'une manière générale pas très satisfaits, donc l'histoire continue à évoluer. Le tribunal de Paris, enfin un tribunal de Paris, a lancé une enquête suite à une plainte contre X dans l'affaire Prism. On l'a appris que récemment, mais ça fait quelques semaines que c'est en cours. Donc les choses bougent au niveau légal en France aussi. Microsoft et Google, c'est une autre nouvelle intéressante. Microsoft et Google ont officiellement porté plainte contre le gouvernement américain. Donc là aussi, c'est quelque chose d'important. Ils avaient porté plainte il y a un moment. Ils ont gardé la chose sous silence parce qu'ils essayaient de gérer ça avec le gouvernement pour essayer d'avoir, enfin avec les tribunaux et le gouvernement, pour avoir un petit peu... par respect. Ils ont dit au bout de quelques semaines, on n'arrive pas à trouver un accord, à trouver un accord sur l'annonce de ce procès. Et les choses ont été décalées trop de fois par les instances américaines. Donc, on annonce les choses publiquement. Et pour le coup, Google et Microsoft travaillent ensemble. Évidemment, c'est une très bonne chose. Et on sait que, en l'occurrence, deux des trois pouvoirs n'ont pas fonctionné comme il fallait. On espère que le troisième fonctionnera et que les tribunaux feront ce qu'il faut. Évidemment, ça ne va pas se résoudre en 2 minutes.
Non, mais c'est vrai que c'est une très bonne chose. Là, il y a clairement un intérêt. On a parlé des chiffres, des pertes, disons, pour l'industrie du cloud, comme on l'appelle, à cause du manque de confiance des autres pays dans les infrastructures américaines. C'est évident que c'est un problème commercial et pas que de valeur, mais c'est un gros problème commercial tant pour Microsoft que Google.
Ouais. Oui. Alors, la dernière info sur le sujet, c'est lié, mais pas directement avec Prism, c'est la condamnation de Bradley Manning à 35 ans de prison, qui est évidemment une sentence très lourde. Il ne fera en fait sans doute qu'une partie de cette peine. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'a pas été condamné pour trahison, qui était une demande du parquet américain, qui aurait pu encourir la peine de mort. Ça n'a pas été, il a échappé à ça. Et il faut savoir que, on l'avait déjà répété, mais je préfère le dire pour donner du contexte à chaque fois, pour que tout le monde comprenne bien. Le cas de Bradley Manning est un petit peu différent du cas de Edward Snowden. Si les intentions de Bradley Manning, je pense, étaient bonnes, et à vrai dire le consensus est qu'elles étaient sans doute bonnes, la manière dont il a fait les choses était beaucoup plus discutable, et notamment il avait livré au public des listes d'operatives d'agents américains dans le monde, qui, dont certains d'entre eux, étaient des agents soit infiltrés, soit des gens qui travaillaient avec les États-Unis et qui étaient des locaux. Et il a mis en danger, voire certainement causé la mort de ces personnes-là. Donc c'est un exemple pour dire que je suis pas certain, je suis pas en train de dire qu'il méritait ses 35 ans de peine, mais par contre.
Ah, franchement.
Bah, je sais pas. Moi, je me prononce pas là-dessus. Franchement, je sais pas.
Ouais. Mais je suis d'accord avec toi. T'as raison de le souligner.
C'est pour dire que Snowden a été infiniment plus prudent. Il a été, et peut-être grâce à l'exemple de Manning, hein, qui a montré la voie, entre guillemets, mais Snowden a sélectionné les informations qu'il a livrées et justement fait très attention à ne nuire à personne, ou en tout cas autant que possible. Mais pardon, Benoît, je t'ai interrompu.
Non, mais Bradley Manning, c'est peut-être un des meilleurs exemples des choses qu'on peut pas voir en noir ou blanc, parce que c'est tellement complexe, effectivement, et la condamnation se comprend. Alors après, effectivement, on peut être en désaccord, mais c'est pas une injustice criante. C'est pas quelque chose qui tombe de nulle part, pour les raisons que tu as citées.
Ouais. Bon. Oui, ensuite on peut arguer du fait que 35 ans c'est trop, ou etc. Mais bon, bref. Si vous voulez en discuter, vous êtes les bienvenus sur le blog de l'émission, sur l'article et avec les commentaires. Vous connaissez frenchspin.com. Et voilà pour nos trois grosses parties principales. On va passer maintenant aux news et rumeurs. Certains d'entre vous n'auront pas manqué le fait que quand je vais parler de Samsung, tu sais, ça me rend tout chose. Donc, on n'a pas mis le Galaxy Gear dans les grosses news de l'émission. Et certains d'entre vous s'en émeuvront. Comment on dit?
Ouais, moi, je propose
s'en émouvoir.
Voilà.
Donc le Galaxy Gear, c'est cette smartwatch, cette montre intelligente, enfin cette montre ordinateur qu'ils ont présenté il y a quelques jours, et avec leur Galaxy Note 3 et une tablette, leur Galaxy 10.1, le nouveau la nouvelle tablette 10 pouces. Et certains diront, ah, mais regarde, c'est juste parce que c'est Samsung, c'est parce que c'est pas Apple ou c'est parce que c'est pas Google. En fait, le Galaxy Gear, c'est super bien, c'est la smartwatch, machin. Franchement, sincèrement, je pensais pas être très impressionné par la Galaxy Gear. Ça me semblait, on en entendait des rumeurs depuis longtemps, mais ça me semblait un petit peu, surfer sur la vague, parce que on sait que les lunettes et les montres, c'est un petit peu à la mode en ce moment. Quelqu'un va en faire une bien un jour, donc Google s'est dit ouais, on va en faire une, et ça me semblait monter un petit peu rapidement et pas avec beaucoup de soin ou d'amour pour le produit. Et ben cette impression m'est restée, voire a été accentuée quand j'ai vu le produit.
T'as regardé la présentation?
Non, je l'ai pas je pouvais pas.
Ah, mais... bah, écoute, t'as été béni sois-tu. Moi, j'ai souffert à travers cette présentation que par moments, tu sais, j'ai dû aller prendre l'air tellement,
c'était douloureux.
Mais ils sont nuls pour présenter, mais la présentation est aussi nulle que la montre. Écoute, à un moment, faut dire, et pourtant, Dieu sait si je serais content de dire, voilà, c'est bien la preuve que Samsung a pas besoin d'Apple pour faire des produits super. Mmh. Je vous l'avais dit, j'avais raison. Bah non, j'avais absolument tort. Ils sont incapables de sortir quoi que ce soit qui aille un temps. J'ai l'impression d'être en face de ma Casio que j'avais quand j'avais 5 ans. Pour ceux qui se souviennent de Casio, c'est ces montres, c'était des gros trucs digitaux au début, c'était moche, mais c'était rigolo, voilà. Et ben, c'est un peu la même chose.
Ouais.
Ah, quelle horreur.
Ah, t'es violent, hein.
Oui, je crois que j'étais assez clair, là.
Alors, je vais dire un petit peu, je vais donner les choses qui me... Malheureusement, les choses qui me plaisent, c'est un petit gadget sympa. Voilà, c'est marrant, c'est un gadget qui peut amuser quelque temps et qui est original. À côté de ça, c'est un écran qui est de taille raisonnable, mais l'interface est pas intuitive, l'interface est lourde, ça lag quand on l'utilise. C'est le consensus, hein, chez tous les journalistes, ça lag un petit peu.
Oui, j'ai vu une vidéo, le gars il l'utilise, il swipe comme ça avec son doigt. Ouais. Et c'est vrai qu'il est loin déjà depuis un moment quand l'écran bouge.
Ouais. Il y a 10 heures de batterie promises par Samsung. Visiblement, au bout d'une heure de présentation, les montres commençaient déjà à être fatiguées.
Je te corrige, ils ont annoncé 25 heures.
Pardon, oui, c'était une journée active. Une journée entière, normale d'utilisation. Quoi d'autre, je sais même plus. Elle coûte $299, donc c'est quand même un petit peu cher. Moi, je pensais que ça serait autour de 200, c'est 300. Quoi d'autre. Donc une journée, il faut la recharger tous les jours. Il y a un petit haut-parleur et un petit micro, donc on peut la mettre à l'oreille pour parler. Mais bon, évidemment, on a l'air un peu con, mais le haut-parleur n'est pas très fort, évidemment, c'est tout petit. Il y a un appareil photo, ce qui pourrait être plutôt sympa, mais c'est un appareil photo 2 mégapixels, donc c'est vraiment des photos qu'on va garder, quoi.
Alors ça, c'est intéressant, parce que la chose que tous les gens qui ont eu le bonheur de porter des Google Glass pendant un moment ont dit, c'est que le principal changement, c'est la façon de photographier, parce que tout à coup, t'as plus besoin de sortir de la poche. Et là, je suis d'accord. Là, il y a quelque chose, même si je suis pas certain que viser avec ton poignet et la montre, je pense que ça prendra quelques heures d'entraînement. Hein.
Peut-être.
Au moins là, il y a quelque chose.
Bon, disons que chacun de ces soucis ne serait pas rédhibitoire en lui-même, mais quand tu les ajoutes et tu les mets les uns sur les autres, au final, ça fait quand même un truc un petit peu. Moi, c'est surtout le fait de devoir la recharger tous les jours, quoi. Je charge déjà mon téléphone, mon iPad, parfois mon téléphone de boulot. C'est bon, je veux pas une montre en plus. Alors il y a des gens à qui ça va plaire, hein, et allez-y, éclatez-vous. Cédric adore sa Pebble, je crois qu'il va la garder. Il veut pas de Galaxy Gear, mais bon, pour moi, c'est clairement pas un truc. Ah oui, si, j'oubliais le truc le plus important. La montre n'est compatible qu'avec les nouveaux appareils qui viennent de sortir, ou alors les Galaxy S3 upgradés en Android 4.3, mais rien d'autre. Et je veux dire, ils n'ont pas d'upgrade officiel pour les Galaxy S3. Donc, j'ai eu un débat sur Twitter avec quelqu'un en disant, voilà, Apple va faire la même chose, il va limiter ça aux iPhones et tout le monde va dire, ah, mais oui, ça c'est bien parce que si Apple, l'un des problèmes, c'est qu'il faut avoir l'infrastructure, l'écosystème installé. Si Apple attend d'avoir l'iPhone 5, l'iPad 3, l'iPad 4 et l'iPhone 5S qui ont le LTE et l'iPhone 5C ou je sais pas quoi, qui ont le LTE et qui peuvent utiliser ce truc, ok. Si Samsung était venu en disant, bon, et ben regardez, tous ceux qui ont un Galaxy S3 ou un Galaxy S4 ou ces nouveaux appareils qu'on sort, ben vous pouvez l'utiliser. Ok, je comprends. Mais là, il faut avoir un Galaxy Note un Galaxy Note 3 qui est pas encore sorti, ou la tablette 10 pouces, ou peut-être certains S3 ou S4.
Je pense que la présentation globale, hein, là de nouveau, faut peut-être remettre les choses en contexte. La vraie présentation du jour, c'était le Note 3. La partie smartwatch était c'était peut-être un quart d'heure au milieu. Donc ils ont pas voulu faire l'événement autour de là. Donc de nouveau, je pense qu'ils savent, hein, que c'est pas tout à fait là. Le Note 3 est pas mal. Il y a des trucs sympas que tu peux faire. Alors ils ont un concept qui s'appelle point, cercle, carré. Voilà, vous comprenez ce que c'est. Mais en gros, on peut dessiner un carré sur son téléphone avec le stylet. Et dans ce carré ou ce rectangle, il y a l'application qu'on décide. Le widget, en fait, pour ceux qui sont habitués à l'écosystème Android, qui peut venir se poser. Donc, ça permet de faire des choses assez sympas. Ils ont pris l'exemple d'une page avec des chiffres où on peut très facilement avoir une petite calculatrice qu'on dessine comme ça pour mettre dans la page. C'est pas une utilisation qui m'a fait tomber de la chaise, mais enfin, il y a un truc sympa. Donc, c'est vrai que le Note 3 était une meilleure présentation que la smartwatch. Et d'ailleurs, ils l'ont mis vraiment en sandwich entre deux. Hein.
Ouais. D'accord. Bon, voilà, on va pas faire deux heures sur la smartwatch. Si elle vous a plu énormément, là encore, vous pouvez venir nous dire pourquoi et nous expliquer qu'on a tort. Entre parenthèses, Qualcomm, qui fabrique des puces depuis très longtemps, des puces ARM pour les téléphones mobiles, a créé une montre aussi qu'ils veulent qu'ils veulent encourager d'autres constructeurs à faire. Bon, c'était pas un événement mondial non plus. Les montres ont pas l'air fantastiques non plus. Donc, on va pas s'apesantir dessus, mais ça a le mérite de, d'exister. Et là encore, on voit bien que le, les montres et, les, et les, le wearable computing, comme on dit au-delà de l'Atlantique, a le vent en poupe.
Ouais, moi j'ai juste une question, parce que je sais qu'il y a un auditoire nombreux et de gens qui connaissent, qui sont des spécialistes, c'est pourquoi est-ce que c'est si difficile de pas avoir des écrans bombés pour ces montres? Parce que clairement c'est ce qui manque. C'est vraiment moche ces montres, mais c'est clairement parce qu'elles doivent être assez grandes et plates, et du coup ça donne un effet vraiment bizarre sur la, le bras, c'est, ça épouse pas la forme, enfin il y a un côté vraiment qui marche pas. Et donc, je pense qu'il y a des raisons techniques évidentes au fait qu'on puisse pas bomber le verre comme ça, mais je serais curieux d'en connaître, d'en savoir plus.
Bah, en fait, on a, il y a eu des rumeurs très persistantes selon lesquelles, Microsoft, Apple avait acheté et avait testé des technologies pour le verre bombé, et on s'imagine tous que c'est pour leur fameuse montre sur laquelle ils sont en train de travailler.
J'espère, ouais.
iPhone 5S annoncé le 10 septembre, c'est dans quelques jours à peine, voire même demain, voire même hier si vous écoutez cette, cet épisode en retard. Donc on aura un, on n'aura pas de live malheureusement, on aurait aimé en faire un avec les camarades d'Upload. On n'aura pas de live, mais par contre on essaiera d'enregistrer quelque chose ensuite, après la conférence, pour vous faire un petit résumé. Et on le livrera avec l'Upload de la semaine. Donc vous aurez quand même nos impressions et le résumé. Et on fera un live, on l'espère, pour la, la conférence pour les iPads. J'ai iPad et pas iPod, qui devrait se tenir en octobre. Donc là, on sera de retour. C'est pas qu'on veut pas faire de live pour les conférences, mais c'est juste que là, concours de circonstances et d'emploi du temps, on n'a pas pu. Donc, si vous voulez les infos sur l'iPhone 5S et l'iPhone 5C, entre parenthèses, je vous résume, les fans d'Apple disent « Ouais, c'est cool », sans sauter au plafond, et ceux qui aiment pas Apple disent ouais, c'est toujours la même chose, c'est pourri, et la, l'immense majorité qui s'en fout dit bon, ok.
Le C c'est pour cheap.
Le C, alors ça peut être pour color, ça peut être pour China, puisqu'ils vont faire une conférence en Chine, c'est une première, le lendemain à peu près à la même heure en fait, en Chine, donc c'est un sans doute un truc pour attaquer le marché chinois.
Bon, un iPhone à 4, on parle $99 hein, quand même. Donc,
Je suis pas sûr. Hein, c'est 99 avec avec la, la participation de l'opérateur.
Avec un plan, oh, ouais. C'est nul alors.
Okay. Ah ouais, c'est pas si cheap que ça. En fait, on imagine, et on en parlait dans Upload, qu'il vient remplacer le l'iPhone de deux générations précédentes, qui aurait été en l'occurrence le 4S, puisque Apple vend toujours le, l'iPhone de deux générations précédentes, et que là, ils le font, ils le remplacent, non pas parce que le 4S est plus bon, mais parce que ils veulent avoir une uniformité au niveau des tailles d'écran et des chargeurs Lightning.
Donc, bon, ceci dit, tu as raison, hein, $99, ça serait, enfin, même un Nexus 4 au rabais, maintenant ils ont baissé les prix, c'est encore à 250 €, donc c'est vrai que pour la qualité Apple, non, ça faisait pas de sens. Ouais.
BlackBerry veut se mettre en vente, peut-être, on sait pas. Ils sont en train de faire leur BlackBerry Messenger sur toutes les autres plateformes, enfin, 2 ans après le moment où ils auraient dû le faire, ou 3 même. Bon, bref, ça va pas du tout chez BlackBerry. À suivre.
Je pense que si tous les auditeurs du Rendez-vous Tech qu'on lance une campagne Indiegogo, ouais, on le rachète tranquille.
On rachète BlackBerry. Ouais, je sais pas ce que j'en ferai hein, en fait. Donc, on va réfléchir. Kindle Matchbook, ça c'est plutôt sympa. Ça vient d'être annoncé par Amazon. Kindle, chez Amazon, on peut acheter des livres Kindle au format électronique. Et vous savez que depuis un moment, ils faisaient le auto-rip. Si on achetait des CD, ils vous donnaient en même temps les MP3. Et ben là, ils font la même chose avec les livres que vous achetez chez Amazon. Ils vous donnent à un prix réduit, là c'est pas gratuit, mais c'est à un prix vraiment réduit, genre $2 ou $3, le livre électronique en même temps. Donc et ça s'applique, c'est là que c'est merveilleux. C'est que aux États-Unis hein, pour le moment, mais ça s'applique à tous les livres que vous avez achetés depuis, je crois, 10 ou 15 ans, depuis la création d'Amazon. Donc c'est monumental. Entre parenthèses, ça s'applique pour les éditeurs qui ont signé un accord avec Amazon. Donc c'est pas encore tout le monde, mais à mon avis ça va se faire vite, parce que imaginez les éditeurs qui peuvent remonétiser les livres qu'ils ont déjà vendus en vendant à prix complètement cassé la version électronique, c'est plutôt une bonne affaire et c'est très bon pour le consommateur. Donc on remercie Amazon, j'imagine.
On peut que les aimer, Amazon. Moi, vraiment, c'est une boîte que j'aime bien. Ils essayent pas forcément de faire du bruit. Ils ont pas lancé de montres moches et tout ça. Franchement, bravo à eux. Super.
Android KitKat. Vous pensiez que Android 3. C'est lequel déjà? 4.4 s'appelait Keylime Pie. Eh bien non. Android et Nestlé ont passé un accord. Enfin, Google et Nestlé ont passé un accord. Et Android 4.4 s'appelle KitKat. Et moi qui ne peux pas manger de chocolat depuis un an, je peux vous dire que ça me fait terriblement envie, quoi. Là, il y avait des photos de KitKat partout, des vidéos, des machins, absolument partout. J'ai salivé, donc.
Est-ce que tu ne peux pas, parce que tu t'es interdit ou parce que c'est fini le chocolat pour toi?
Non, c'est parce que j'ai des intolérances alimentaires. Il faut que je mange pas de chocolat pendant à peu près un an. J'espère pouvoir en remanger bientôt. J'ai fait une petite exception cet été, mais sinon, non, j'ai pas mangé de chocolat du tout. C'est terrible. Hein.
Bah, là, tu parles à un Suisse, tu vois, donc je suis vraiment profondément avec toi. J'avais vu un truc sympa, mais j'ai oublié le nom. Et là, les amis bretons me pardonneront, mais il y a un dessert breton qui commence par un K. Là, faudra le mettre. Les gens essayaient de pousser pour que ce soit ça le nom la nouvelle version d'Android. On le retrouvera dans les commentaires. Je suis sûr qu'il y aura un ou deux bretons qui nous donneront le nom.
Wing Aman.
Voilà. Mais écoute, ça aurait été magnifique. Moi, j'aurais eu plaisir. Je trouve que c'est hyper bien vu, hein, quand même.
Écoute,
je sais pas comment
ils ont
fait.
Ça a l'air super bon, en plus.
Oui, mais je dis le KitKat, c'est vraiment un coup marketing assez génial. C'est une chose qu'on peut faire qu'une seule fois dans la vie d'une société, j'ai l'impression. Mais vraiment malin, pour le coup. Ouais, joli.
C'est clair. Bon. C'est pas Android Queen
mais,
Aman.
Tu vois
si
où on en arrive.
Si quelqu'un nous donne la prononciation, ça serait sympa.
Mais ce qu'il y a d'intéressant dans cette 4.4, parce qu'on dit voilà KitKat et tout ça, c'est tellement plus intéressant les updates d'Android. Il y a tellement rien que ce dont on parle, c'est le nom. Mais c'est vrai, c'est ça le truc. Moi, je suis sûr que c'est ça au fond. Il faut bien qu'on parle de quelque chose, donc on va trouver un nom sympa. Alors ils l'ont fait super bien, hein, bravo à eux. Mais est-ce que tu as entendu parler d'une seule feature qu'il y aura dans 4.4 qui est intéressante?
Bah, je les ai oubliées, mais oui, j'ai entendu les... Mais tu sais, 4.4,
oui,
c'est une update.
Vois,
elle porte bien son nom numéraire, en fait. C'est 4.4. Et je pense que c'est peut-être pas plus mal, justement, de faire des updates minimes, des noms d'updates minimes, quand tu passes d'une version minime à une autre, plutôt que d'annoncer systématiquement 5 ou 6. Là, ils annoncent la couleur, donc... Moi, je suis pas tellement affecté par la chose parce que finalement, chez Apple, c'est pas non plus chez Apple ou chez Microsoft. Hein, je veux dire Windows Phone 7 à 8. Oui, il y avait des trucs qui changeaient. Enfin, 7 à 8, c'était peut-être un petit peu plus. Et là, chez Apple, la version 7 est effectivement très différente, notamment avec le multitâche et des trucs qui se voient pas forcément au premier abord. Mais 5 à 6, c'était pas invraisemblable. 4 à 5, il y avait des trucs cool, mais bon. Hormis quelques fonctions genre Siri et les machins comme ça qui étaient intéressantes quand on les a annoncées. Moi, je trouve ça à la limite plus honnête, plus... Tu vois, ils résistent à la tentation de dire « On va faire Android 5, machin. » Ils t'annoncent la couleur et disent « Bon, c'est une petite mise à jour. Il y a des trucs intéressants, il y a des trucs cool. » Mais bon, c'est pas...
Tu m'as convaincu.
Super. J'ai gagné. Le nouveau logo Yahoo, ça je voulais en parler parce que ça m'a un petit peu... c'est peut-être même pas la peine d'en parler en fait. On s'en fout, non?
Ouais, non, on s'en fout pas parce que moi je l'ai vu, puis j'étais là, tout ça pour ça. Et puis après je l'ai vu en vidéo et je l'ai trouvé très bien. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est que je me suis dit, à mon avis, c'est la première fois qu'un logo est pensé d'abord pour la vidéo. Alors ça vient complètement...
Mais comment ça pour la vidéo? Qu'est-ce que ça change de le voir en vidéo?
Parce qu'il a un côté... Quand il bouge, parce que Yahoo, c'est toujours un logo qui bouge, hein, dans la vidéo. Il y a le point d'interrogation qui arrive et tout ça. Il est fait pour être en mouvement, ce logo. Yahoo, c'est comme ça que je vois. Alors là, je pars dans mes interprétations impressionnistes, hein, du logo. Mais regardez-le en image. Il est moche et en vidéo, j'ai trouvé super. Donc, ma théorie, c'est le premier logo de grande société fait d'abord pour la vidéo.
D'accord. Bon, écoute, c'est intéressant. Oui, c'est peut-être une raison. Moi, je t'avoue que j'ai pas été très impressionné, mais bon. Dernière news avant de se quitter, des lunettes de réalité virtuelle pour la PlayStation 4. Ce sont des rumeurs, plus que des rumeurs même, selon lesquelles la PlayStation 4 serait à terme équipée des lunettes de réalité virtuelle du type Oculus Rift, ce gros truc qu'on met sur les yeux, et ça vous couvre complètement votre champ de vision et vous pouvez déplacer
sur les yeux,
la tête.
Patrick, hein.
Pardon?
Sur les yeux, oui.
Toi, t'as vu ma photo sur sur Instagram.
Oui.
Ouais, donc voilà. Moi, j'avais essayé. Bon, tu l'as spoilé, mais non, j'en avais parlé sur Instagram. Chez Jérôme Kainborg, qui va en faire un test sur sa chaîne YouTube nowtech.tv. Et vous verrez, hein, je ne vais pas vous en dire plus, vous verrez ce que ça donne. Il y a plein de gens qui l'ont utilisé, il a filmé les réactions, tout ça, c'est très marrant. Mais bon, c'est effectivement, pour la PlayStation 4, peut-être un vecteur de différenciation important. On sait que tous les gens qui ont essayé l'Oculus Rift ont vraiment été convaincus. Il y a des petits soucis peut-être sur le long terme de jeu au bout de quelques plus de 10-15 minutes, mais encore les gens s'habituent. Donc bon, là ça serait quelque chose de vraiment intéressant et de très différent pour la PlayStation 4. Ça sera pas disponible tout de suite. Il y aura aussi une histoire de segmentation du marché, ceux qui l'ont pas, etc. Mais c'est quelque chose d'intéressant. À vrai dire, je suis surpris que personne n'ait racheté Oculus déjà. Soit Sony, soit Microsoft, pour justement en équiper ces appareils.
Ouais, je pense qu'ils sont capables de le faire. Mais tu sais ce que je trouve hyper intéressant, et là on part dans peut-être les choses à 10 ans plutôt qu'à un an ou deux, mais c'est que maintenant il y a cette bataille pour la télévision, la PlayStation, la Xbox, etc.
Oh, bah, c'est pas nouveau ça.
Exactement, mais Oculus est en train d'enlever tout le sens de cette bataille, parce que si on commence à avoir plus de télévision mais des trucs comme ça sur ses yeux et qui est individuel, ben il y a plus de raison d'avoir de télévision, tu vois. Et moi je crois qu'on va aller quelque part là-dedans. Je sais pas, à 10 ans,
hein. je te crois. Je suis pas certain, mais
ouais,
bon, on verra, on prend les paris, on se reparlera dans 10 ans.
Exact.
Bon, et ben voilà, c'est la fin de l'émission, rondement menée, efficace, rapide, sympathique.
Tu peux pas nous laisser sans parler un petit peu de tes vacances quand même.
Oui, bon, ok, alors donc on y vient. Donc pour ceux qui ne le savaient pas encore, avant les vacances, j'étais Monsieur Béja, et maintenant je suis Monsieur Béja. Vous entendez la différence, non? Monsieur Béja? Non? Pas du tout.
Oui, ben on le sent, oui.
Voilà, c'est ça. Donc, je me suis marié pendant les vacances. J'ai épousé ma fiancée que je connaissais depuis quelques années. Ceux qui me suivent là encore le savent. C'était une cérémonie magnifique. Tout s'est bien passé. Et franchement, ça me fait un petit quelque chose de dire ça aux auditeurs à chaque fois. J'en ai déjà parlé dans d'autres émissions, mais c'est... Comment dire, les auditeurs qui me suivent depuis longtemps, je fais du podcast depuis, je crois que ça va faire, dans quelques jours en fait, j'avais lancé Azeroth.fr, qui était ma première émission en 2006, donc ça va faire quoi, ça fait 6-7 ans. Vous qui me suivez depuis la première heure, essayez de vous souvenir un petit peu où vous étiez il y a 7 ans. Certains d'entre vous étaient peut-être pas encore mariés, certains d'entre vous avaient pas d'enfants, certains d'entre vous étaient au lycée ou peut-être même au collège. Maintenant, vous êtes soit à l'université, soit en train de travailler carrément. Enfin, eh ben pour moi c'est pareil quoi. J'étais encore, bon, je suis pas tout jeune, mais j'étais quelqu'un de très différent. Et ça me fait vraiment, enfin, les podcasts et les auditeurs et les j'ai l'air d'un con en disant ça, je suis désolé, mais c'est vrai, je veux dire. Enfin, ça fait tellement partie de ma vie, j'en fais tellement, c'est une vraie passion et je suis tellement investi dans ces choses-là et on est tellement ensemble tout le temps finalement, par Twitter, par Facebook, par tout ça, enfin, et puis par les podcasts évidemment. J'ai l'impression de partager un petit peu ça avec vous et donc quand je dis je me suis marié, évidemment, c'est quelque chose d'important pour moi, hein, mais c'est aussi un truc que je livre aux auditeurs et je dis voilà, le c'est un événement important dans ma vie et ça me fait un petit peu, c'est marrant de vous le dire et de le partager avec vous quoi.
Alors donc c'était en Finlande, hein, pour l'occasion.
Oui tout à fait, vous l'aurez compris, ma femme est finlandaise. Ma femme, je peux dire ma femme.
Tu le dis bien. Est-ce que c'est différent un mariage finlandais par rapport à un mariage français?
Il y a beaucoup de discours et pas mal d'alcool. Il y a de l'alcool dans les mariages français aussi, mais là il y en avait peut-être même un petit peu plus, on va dire. Mais c'était très sympa, c'était très cool. C'était, en fait, on a réussi à être juste sur la limite entre le mariage un petit peu différent, on va dire, sans être tellement différent qu'on est genre hipster. Tu vois, c'était juste suffisamment détendu, bonne humeur, dans un petit peu dans la forêt, enfin pas dans la forêt, mais c'était à la maison de campagne de la famille. Donc tu vois, on avait un cadre magnifique et puis les gens étaient dehors avec le soleil qui se couche très très tard en Finlande, donc c'était je crois pas que, enfin j'en ai pas fait beaucoup des mariages en France, mais je crois pas que c'était si différent que ça, si ce n'est qu'il y avait quand même pas mal de discours, ouais.
Et que tu connais un mot ou deux de finlandais, ou est-ce que t'es resté imperméable?
Bah quelques-uns maintenant. Bah tu sais, enfin finlandais oui et non, ma femme est suédo-finlandaise, donc elle parle plutôt suédois.
Ah d'accord. Bon bah alors bientôt un podcast en suédois alors.
Ah peut-être, oui, c'est possible. Donc voilà, et bon, comme vous l'aurez compris, hein, j'ai dû préparer le mariage, tout ça, et puis après, je profitais un petit peu de ma vie d'homme marié, et puis accessoirement, j'avais aussi beaucoup de boulot au niveau de mon vrai travail qui me paye des sous, donc j'ai pas vraiment eu le temps de m'y remettre, mais là, ça y est, c'est bon, on est revenu, on est là pour rester tous les 15 jours pour le rendez-vous tech, tous les 15 jours aussi, on a changé de formule pour Upload, on en parle dans le dernier épisode, vous pouvez aller écouter ça si ça vous intéresse. Et bien sûr, tous les 15 jours avec Positron, le petit dernier, dont on avait déjà parlé avant les vacances. Je vous encourage encore vraiment, vraiment, vraiment à aller écouter Positron. C'est une émission dont je suis très, très fier, qui vous mettra la banane, la bonne humeur et qui en plus vous rendra service en vous conseillant des trucs super sympas auxquels vous auriez pas forcément pensé. En ce moment, c'est avec Cédric Bonnet et John Plisken, alias Philippe Gage, l'ancien de Scuds. Donc, de Scuds et d'autres choses, hein, bien sûr. Donc, allez y jeter un coup d'oreille. Franchement, je pense que vous apprécierez. Donc voilà. Bon, on est de retour. Les podcasts recommencent pour de bon. Rien ne s'était arrêté. Ne vous inquiétez pas. C'était juste la première fois depuis que j'ai commencé à faire du podcast où je me suis arrêté. Enfin, arrêté, même pas tellement parce qu'on a enregistré Positron. J'ai fait des trucs en anglais. Mais bon, j'ai fait une petite pause pour certains trucs depuis, pouf, 6-7 ans, comme je disais. C'était intéressant, mais j'avais hâte de revenir quand même et je suis très content de vous retrouver.
Ouais, Positron, ça cartonne, hein. C'est vrai, pour un nouveau podcast, ça a vraiment été, ça a pris d'assaut la podcastophère, je sais pas comment on appelle ça.
Podcastosphère, bah merci, c'est gentil, je suis heureux que tu l'apprécies. Et j'espère que vous l'apprécierez aussi. Donc tout ça, c'est sur frenchspin.com. C'est très facile, hein. Vous connaissez ce site si vous nous suivez depuis un moment. Puis sinon, vous pouvez le découvrir. Et à propos de découvrir ou de retrouver, Benoît, où te retrouve-t-on, toi, sur Internet?
Alors, le plus simple, la meilleure façon, c'est de venir lundi prochain, quel que soit votre lundi ou le jour où vous soyez aujourd'hui, lundi sur live.niptech.com, vous venez et vous participerez à l'émission en direct de Niptech. Ça, c'est le truc important. Après, si vous l'envoyez un tweet pour corriger des erreurs, @bcurdy, ça va aussi. Ça marche bien. Mais je vous encourage à passer au live. Et d'ailleurs, peut-être qu'un jour, il y aura à nouveau un live. Hein. C'est toujours des bons moments. Donc voilà, si vous voulez venir dire bonjour.
Eh ben écoute, j'espère que les gens passeront te dire bonjour. Moi, je suis toujours heureux d'écouter l'émission, parce que bien sûr, elle est disponible en podcast aussi. Hein, faut le préciser,
oui.
Mais évidemment. Eh ben voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez été heureux de nous retrouver, que vous dites pas ouais non, en fait, il est un peu chiant, ce Patrick. C'était beaucoup mieux dans mon souvenir. Non non, Monsieur Béja est aussi sympathique que Monsieur Béja.
T'as pris une nouvelle dimension, une sorte de profondeur en plus qui te va bien.
Oui, de sagesse, tu vois, maintenant. Voilà. Oui, entre parenthèses, je vais aussi partir en voyage de noces à un moment, donc je risque de redevoir faire une pause de cette année. Mais c'est un scandale! Si vous voulez me dire que c'est un scandale, note Patrick sur Twitter, vous m'envoyez des tweets complètement outrés, ou même shootrés, pour ceux qui savent de quoi je veux parler. Ne vous inquiétez pas, je lirai tout ça et je vous répondrai, c'est promis. On se donne rendez-vous dans tous les cas pour une prochaine émission. C'est le prochain Upload, je crois. Et il y a aussi Positron dans quelques jours. Et pour un prochain rendez-vous tech, dans 2 semaines. Je vous fais de grosses, grosses bises à tous. Je vous serre dans mes bras, très sincèrement et très chaleureusement. Je vous remercie de nous être fidèles et je vous dis, comme toujours, à dans 2 semaines. Ciao à tous.
Ciao, ciao.